Bonjour, bonjour à tous et à toutes, chers et précieux auditeurs. J'espère que vous allez bien et que tout se porte pour le mieux pour vous et pour les gens que vous aimez bien, voire ceux dont vous vous en foutez un peu mais qui sont gentils. Non mais voilà, on fait un direct de l'avant, donc moi je me suis dit que le mot d'ordre c'était la gentillesse, la joie de vivre et surtout la mièvrerie. Et puis, en vrai, j'aime bien cette émission, elle est simple, elle est sympa et j'adore l'animer. En vrai, j'ai le même plaisir en l'écrivant que celui que j'avais enfant quand mon père venait me chercher dans ma chambre le soir pour me dire de descendre dans le salon, pour m'installer dans le canapé et regarder un petit documentaire sur la Wehrmacht qui venait de commencer et qui allait me mettre des étoiles dans les yeux. Je crois que c'est de là que vient mon amour pour l'histoire et les trench bien coupés. Et voilà, évidemment que j'allais atteindre le point de Godwin aussi vite, il y avait trop de bons sentiments dans cette intro pour que ça ne soit pas louche. En plus, ce n'est pas tout à fait par hasard que j'ai raconté cette affabulerie. Elle est en lien avec le sujet du jour. Enfin, non. Pas avec les opéras de Wagner et les bottes de cuir. De toute façon, je pense que les nazis devaient penser que Noël c'était pour les gentils et eux ils étaient pas gentils. Mais avec l'enfance. Parce qu'on va parler d'une période qu'on attendait tous avec impatience quand on arrivait en novembre. Une période qui sent bon la cannelle et la pâte de coin qui refroidit au coin du feu. Une période qui fait du brouillard avec la bouche. Une période qui a le nez tout froid. Chers auditeurs, laissez-moi vous présenter une petite histoire du calendrier de l'Avent. Et pour commencer cette chronique, j'aimerais revenir sur le côté enfantin de la chose et rétablir une vérité. Non, le calendrier de l'Avent n'est pas un objet innocent et gentil qui ravit les petits et les grands à grands coups de joie au coin du feu. C'est un instrument de douleur contenue et de conflits larvés, créant jalousie et discorde au sein des foyers. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais revenir sur les trois principales situations possibles qu'engendre l'achat d'un calendrier de l'Avent. Tout d'abord, il y a les chanceux, les vénards, les privilégiés, appelez-les comme vous voulez. Moi, personnellement, je les appelle les bâtards. Je parle évidemment des filles et fils uniques, ceux dont les parents achetaient un calendrier de l'Avent rien que pour eux et qui, en plus, les voyaient comme leur bien le plus précieux et donc ne leur prenaient même pas un bout de délicieux chocolat dont ils pouvaient se régaler chaque matin. J'ai un regard tout à fait objectif et pas du tout revanchard, je ne vois pas ce dont vous voulez parler. La situation est à peu près équivalente pour les riches, qui avaient les moyens de s'acheter non pas un calendrier pour la famille, mais un calendrier chacun, ce qui est absolument indécent. Dans mon esprit d'enfant, le nombre de calendriers de l'Avent était tout à fait un signe extérieur de richesse qu'il faudrait prendre en compte dans les calculs du PIB. Et ce qui en fait des bâtards, oui c'est ça, vous avez bien suivi. Vient ensuite la deuxième situation, ceux qui avaient une technique un peu étrange et qui m'a toujours semblé conflictuelle, si ce n'est menant forcément à un conflit armé, n'attends-moi ne pas faire une blague sur Israël et la Palestine, les gens qui appliquaient la règle du « le premier qui se lève a le droit au chocolat du jour ». Alors, je veux bien que ce soit rudement efficace pour faire lever les gosses pour aller à l'école le matin. Mais déjà, c'est bête, la moitié du calendrier est pendant les vacances. Et ensuite, pour être franc, je ne pense que ça ne peut pas bien finir. Il y a forcément un moment où un membre de la fratrie va menacer les autres pendant leur sommeil ou manger tous les chocolats un matin sans prévenir. Ce qui mène irrémédiablement les parents à en acheter un calendrier à chacun, ce qui les place désormais dans la catégorie des bâtards. Oui, c'est ça, vous êtes toujours suivi. Et ensuite, il y avait la troisième catégorie, la mienne. Celle dont la famille a décidé d'éviter tous les conflits et laisser pour compte, et donc qui partage. Chocolat. Et autant c'est frustrant quand on voit la fenêtre du 24 s'ouvrir et qu'on sait qu'on va devoir couper ce Père Noël en 4, autant c'est carrément ridicule quand il faut couper un petit œuf en chocolat en 5 et qu'on ne sait même pas comment faire. Mais le partage, ça rend le plaisir 10 fois plus grand, tu sais. Oui maman, super, maintenant laisse-moi récupérer mes 2 grammes de chocolat au lait et noyer mon plaisir dans mon seum. C'est un peu comme si ils avaient acheté une tablette de chocolat, qu'ils avaient coupé en carreaux en 4 et qu'ils nous avaient donné un bout en disant « Revenez demain les enfants, vous en aurez un autre. Et surtout, ne mangez pas tout d'un coup, hein !» Ouf, ça va mieux. Il est où le seum, disease ? Ouais, j'adore cet extrait, j'utilise partout. Bref, après ce règlement de compte, il est peut-être temps de se demander d'où vient le premier calendrier de l'Avent, parce que c'est un peu le but de cette émission qui est une émission d'histoire au début. Et déjà, qu'est-ce que l'Avent ? Eh bien, contrairement à ce qu'ont pu penser tous les enfants de l'histoire, le calendrier de l'Avent ne veut pas dire le calendrier d'avant Noël. Eh oui, c'est bête, ça aurait été trop logique. Non, le mot « avant » vient du latin « adventus », qui veut dire « avènement ». En fait, le calendrier de l'Avent, c'est le calendrier d'avant l'avènement du Christ, JC pour les intimes, toujours là dans les bons coups. Et l'avènement du Christ, c'est tout simplement sa naissance, le 25 décembre, le jour de Noël, bien ouais, c'était dur. Mais déjà, qu'est-ce que l'Avent ? À l'origine, au tout début, l'Avent était une période de pénitence préparatoire à Noël, une sorte de carême de 40 jours où les chrétiens jeûnaient les lundis, mercredis et vendredis, ce qui est littéralement l'inverse de notre tradition, comme quoi l'évolution ça a du bon. Enfin, c'est en tout cas ce que nous dit Fernand Cabrol dans un cadre d'article qui commence par « Il faut laisser de côté un sermon de Saint-Augustin qui est en réalité de Saint-Césaire, un texte de Saint Jean Chrysostome, où on a vu à tort deux allusions à un avant liturgique, et deux sermons de Maxime de Turin. Et un homme qui arrive à convoquer Saint Jean Chrysostome, je ne sais pas comment j'ai réussi à bien prononcer son nom deux fois d'affilée, peut invoquer tous les arguments d'autorité qu'il veut, je le crois sur parole. Bref, selon lui, les premières mentions de l'avant apparaissent en Gaule en 5e siècle de notre ère, selon des textes de Grégoire de Tours. Oui, non, mais désolé, on parle de théologie, là, évidemment que c'est la partie pas fun de l'émission, mais il faut bien en passer par là. Mais Dom Cajun dit que des mentions de trois messes de l'avant apparaissent plutôt au... Alors, j'aurais bien voulu vous donner la date, mais la suite de l'article était payante, et je vous aime bien. Mais je n'allais pas payer 10 euros juste pour lire les habitudes des vies des pères de l'Église qui avaient, je pense, un mode de vie, le mode de vie le moins fun de l'histoire. Mis à part ça, d'où vient le calendrier de l'Avent, plus précisément? Eh bien, il faut chercher bien plus proche de nous, au XIXe siècle et en Allemagne. En fait, il y avait plusieurs prémices. Tout d'abord, la tradition de la couronne de l'Avent, dont on a déjà parlé dans la chronique sur le marché de Strasbourg. À cette époque, l'Avent commençait réellement le quatrième dimanche avant Noël. Et chaque jour, les familles allumaient une bougie, dont quatre étaient plus grandes pour chaque dimanche. À la même période, les enfants recevaient traditionnellement, dans les familles protestantes, une image pieuse tous les jours. Et c'était censé les faire patienter jusqu'à Noël. Alors, je suis pas un expert en marketing, mais je pense qu'ils auraient pu trouver une autre idée pour faire apprendre la patience. Je ne veux pas m'avancer, hein, mais je pense que les enfants se levaient pas discrètement la nuit pour découvrir en avance leur superbe image du baptême de Jésus. Quant au calendrier de l'Avent à proprement parler, il date de l'année 1908, quand un monsieur du nom de Garakland, éditeur de livres médicaux à Munich, rien ne va avec cette histoire, décide de coller ces petites images sur un support en carton pour leur donner une forme de calendrier. Et c'est en 1920 qu'il a l'idée d'améliorer le truc en créant le fameux calendrier avec les fenêtres en carton qu'on ouvre tout le matin. Sauf que là, c'était des phrases tirées de la Bible et pas des chocolats. Et je peux pas m'empêcher d'imaginer les petits enfants se précipiter le matin, courir en pyjama et s'écrier « Ouais ! Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » Ma préférée. Bon, ok, j'avoue, celle-là était un peu rigolote et j'aurais pas été content de la voir à l'époque. Bref, pour finir notre histoire, il me reste à préciser que les chocolats font leur apparition bien plus tard, en 1958. Et pour finir notre émission, qui est déjà un peu trop longue par rapport au temps qui m'est accordé, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chocolats ne sont plus la seule possibilité et que de nombreux types de calendriers sont possibles. Et je vous propose de finir par un petit top des meilleurs calendriers de l'Avent, avec une première catégorie, le calendrier le plus inutile, auquel j'aimerais rendre hommage, le calendrier de l'Avent Brico Dépôt que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres il y a deux jours, et où chaque jour j'ai le droit à une réduction sur des outils. À l'inverse, le calendrier le plus utile, je voudrais vous faire connaître le calendrier du domaine public qui, chaque jour de l'Avent, chaque jour de décembre, dévoile le nom d'un artiste qui tombera dans le domaine public l'année suivante. Ils ont un site internet si vous le cherchez. Alors, le plus attendu, évidemment, quand on parle de stop, il faut exister l'existence de nombreux calendriers pornographiques. Mais le meilleur reste d'entre eux, le calendrier Marc Dorcel, qui s'appelle sombrement le calendrier de l'arrière, toujours très classe, et qui offre derrière chaque vignette une photo des fesses d'une actrice de film porno. Un cadeau très utile pour les trois personnes qui ont une âme d'enfant, envie de se masturber, mais pas internet. Enfin, le moins acheté, je dirais que c'est le calendrier de l'Avent spécial Chinchilla, qui nous offre un magnifique accessoire pour Chinchilla par jour, parce que pourquoi pas. Et c'est sur ces belles paroles que je vous quitte, et à bientôt pour une nouvelle émission.